Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir pour la première des quatre conférences que Claude Desplan, qui vient de New York, donnera au mois de mai donc au Collège de France à la même heure. Donc Claude Desplan est un chercheur généticien moléculaire qui a étudié pendant plusieurs décennies le développement de la drosophile et qui s'est, en un sens, intéressé toujours à cette question fondamentale de savoir comment les cellules acquiert au cours du développement des destins spécifiques. Et la question de la spécificité a d'abord sous-tendu ses travaux sur l'embryon précoce de la drosophile. Dans les années 80, alors qu'on découvrait les premiers facteurs de transcription et les gènes qui codaient pour le développement, Claude Desplan s'est intéressé aux facteurs moléculaires qui sous-tendent ces spécificités et qui permettent à chaque cellule, en fonction des combinaisons de facteurs qui sont exprimés à un moment donné, à un espace donné, d'avoir telle ou telle caractéristique différenciée. Puis, il a exporté ce type de compréhension, ce cadre conceptuel de compréhension du développement pour l'étude de la rétine et, depuis lors, le système nerveux chez la drosophile, en prenant aussi comme terrain d'étude les facteurs de transcription qui codent la diversité neuronale. Et de fil en aiguille, Claude Desplan est devenu un spécialiste du développement du système nerveux chez la drosophile. Et on verra, au travers de ces conférences, cette question de portée beaucoup plus générale au-delà des neurosciences, et qui d'ailleurs, en un sens, a été un fil conducteur de mes cours, un peu par coïncidence cette année, au Collège de France, qui était la question de savoir dans quelle mesure les destins cellulaires sont l'expression de programmes déterministes qui spécifie l'identité cellulaire d'une façon très hiérarchique et déterministe, à différence de modes de contrôle que l'on verrait plutôt de type auto-organisé, ou en tout cas relevant de lois statistiques. Et on verra dans le deuxième cours de Claude Desplan, justement, le rôle de facteurs stochastiques qui joue un rôle important dans la spécification neuronale. Et finalement, pour ceux qui auront la chance et le privilège de participer aux quatre de ces conférences, de pouvoir voir comment cette question du déterminisme et de la stochasticité cohabite dans le développement du système nerveux. Voilà, donc Claude est un chercheur français, comme vous allez vous en rendre compte, et comme vous le devinez peut-être par son nom, qui a quitté la France il y a fort longtemps, mais qui a toujours été très présent auprès de la communauté française, à la fois en accueillant des chercheurs, dont moi d'ailleurs, qui ai bénéficié de son laboratoire dans les débuts des années 90, alors qu'il était encore à Rockefeller University. Claude obtenu un poste de professeur à NYU en 1999, où il est toujours. Claude est très impliqué dans les enseignements, donne de nombreuses conférences, accueille de nombreux chercheurs, et pour ceux qui le connaissent, a une personnalité qui exprime la passion que l'on a tous, ou que l'on devrait tous avoir pour la recherche. Nous sommes très heureux de l'accueillir parmi nous, en espérant que les contacts qu'il aura avec vous, au fur et à mesure de ces conférences, permettront de générer des discussions que j'espère fort utiles à chacun d'entre vous. Donc Claude va donner sa conférence. Je crois qu'il accepte des questions pendant son intervention, mais bien sûr, je propose que le temps fini après sa conférence, qui durera environ une heure, des questions pourront continuer à être posées et une discussion sera ouverte. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à Claude Desplan.
Merci Thomas. Donc je suis très heureux d'être ici. Je dois avouer que c'est pas très souvent que je donne des conférences en français. En fait, je crois que c'est la première fois de ma vie. Vous me pardonnerez mes anglicismes de temps en temps. Juste avant de venir, on a une discussion assez importante avec Thomas. Il essaie de tester mes vues sur justement la notion de déterminisme par rapport aux notions de hasard et de statistique. Et donc, je vais prendre aujourd'hui une position qui est assez extrême en disant que tout ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est quelque chose de très déterministe. Bien sûr, la semaine prochaine, je prendrai un peu le contre-pied de cela en parlant, en fait, de patterning du cerveau qui fait intervenir des notions de stochastisme. Et ensuite, au niveau de la troisième conférence, j'essaie de voir comment on peut coordonner ces deux choses, comment une spécification statistique peut être coordonnée avec une spécification qui est très déterministe. Et à la fin, la dernière semaine, ce sera quelque chose d'un petit peu plus visuel, puisqu'en fait, je vous présenterai pas mal de choses, l'évolution des systèmes sensoriels chez les insectes, et ce sera de très belles images, normalement, qui ne sont pas prises par moi, par des amis photographes, et comment, en fait, on peut comprendre au niveau moléculaire, maintenant, grâce au niveau de technologie, comment on peut essayer de comprendre ce qui se passe chez d'autres animaux qui peuvent expliquer leur adaptation à leur monde, à leur environnement. Donc, aujourd'hui, c'est la génération de la diversité neuronale, ok. Et donc, c'est une conférence qui, en fait, représente pas mal de ce que l'on fait en ce moment dans notre laboratoire et qui va faire intervenir non seulement des questions de visualisation du développement neuronal lui-même, mais aussi des technologies un peu modernes, comme par exemple le séquençage de cellules uniques dont je bénéficierai pas mal. Okay. Donc, comme vous le savez, le cerveau est assez complexe, très complexe, il comprend de très nombreux types cellulaires. Et en fait, ces types cellulaires neuronaux varient énormément dans leur morphologie, dans leur fonction, etc. Et en fait, on a une idée assez réduite de combien de types neuronaux existent dans le cerveau humain. On sait qu'il y a à peu près 85 milliards de neurones dans le cerveau humain, il y a autant de glies, en fait, et on ne connaît pas du tout combien de types neuronaux là. Il y a des tentatives de la part du Genome Center aux États-Unis de comprendre combien de neurones il y a, mais on n'a pas une grande idée. Je dirais qu'il y a plusieurs milliers, dizaines de milliers de types cellulaires, peut-être même plus. Okay. Donc, 85 milliards de neurones, chacun envoie à peu près une dizaine de milliers d'axones qui va projeter sur 10 000 cellules. Là, vous avez une cellule neuronale en vert qui reçoit à peu près 10 000 synapses d'autres neurones. Donc, ce qui fait que si on multiplie le nombre de neurones par le nombre de connexions, on arrive à un nombre de l'ordre de 10 puissance 15, qui est en fait moins que ce que le plus moderne chip qui est dans votre Mac fait. Ceci dit, je pense qu'on arrive toujours à faire un meilleur travail avec notre cerveau que ce qu'on arrive à faire avec notre Mac. Okay. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de comprendre comment on peut déterminer ce système, mais pas en utilisant le cerveau humain, dans la mesure où le cerveau humain est vraiment beaucoup trop compliqué. Et donc, je vais m'intéresser avant tout au cerveau de drosophile, qui est un animal qui a un cerveau qui est beaucoup plus simple, de l'ordre de 100 000 neurones, par rapport à 85 milliards, c'est quand même un avantage énorme. Et ceci dit, en fonction de 100 000 neurones, on arrive malgré tout à avoir un animal qui se comporte relativement bien. Je l'ai toujours essayé d'attraper une mouche, je vous n'y arriverai pas, donc ça veut dire que d'un certain côté, il fonctionne mieux que nous. Et je vais en fait me focaliser avant tout sur le lobe optique, qui est en fait le système qui traite de l'information visuelle. Là, vous avez les lobes antennales, qui est en fait l'olfaction. Mais on va avant tout se concentrer sur le lobe optique, qui est en fait la plus grande majorité des neurones qui existent dans le cerveau de drosophile, dans la mesure où en fait, l'animal est un animal très visuel. En fait, essayer de l'attraper, vous n'y arriverez pas. Donc, on va se concentrer là-dessus et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est l'œil de drosophile, et je vous en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine. Et l'œil, en fait, arrive à effet de 800 facettes. Ces 800 facettes représentent, en fait, la possibilité de détecter 800 pixels. Donc, en fait, c'est un animal qui a une résolution assez limitée, de l'ordre de 800 pixels. Ceci dit, malgré tout, il arrive à voler à grande vitesse et arriver à éviter tous les obstacles. Okay. Donc, malgré tout, en fonction de cette complexité quand même assez importante, donc ça a commencé, en fait, son analyse au temps de Karal. Karal avait analysé le cerveau, non pas des drosophiles, mais en fait des mouches un peu plus grosses, c'était beaucoup plus facile d'utiliser ça. Et depuis, Fischbach a utilisé les mêmes techniques de Golgi pour essayer de voir ce qui se passe. Et donc, dans ce que je vous ai montré dans cette image-là, c'est en fait l'accumulation des neurones qui sont superimposés, qui permettent en fait de traiter l'information visuelle qu'on trouve dans le cerveau. Okay. Donc ça, c'est une représentation peut-être qui est toujours réelle, c'est en fait beaucoup plus bien simplifié, celui-ci dit c'est réel. Est-ce que vous avez donc un système qui est très hiérarchisé? Et en fait, ce que vous avez ici au niveau de l'œil est fait donc de ces 800 facettes, ces 800 facettes qui détectent 800 pixels, et en fait, c'est fait de 800 unités qui vont se propager de l'œil vers les différents niveaux, les niveaux stades de traitement de l'information. Donc, en fait, les photorécepteurs qui sont chez la drosophile, à la fois des photorécepteurs et des neurones, vont projeter vers la première couche qui s'appelle la lamina, où, en fait, ce qui va se passer, c'est que ces neurones vont se projeter de façon tout à fait coordonnée, de telle sorte qu'en fait, il y a 800 facettes dans l'œil, il y a aussi 800 cartouches au niveau de la lamina. Et, en fait, je vous en parlerai dans la troisième lecture, comment en fait l'œil peut induire le développement de ces 800 cartouches. Donc il y a une coordination très précise entre les deux. Cette coordination continue au niveau de la prochaine étape qui s'appelle la médulla, qui est une structure qui est beaucoup plus compliquée et qui se développe en fait de façon indépendante de l'œil, mais qui bien sûr doit être coordonnée avec celle de l'œil. Et on retrouve toujours ces 800 colonnes qui correspondent à ces 800 cartouches et ces 800 facettes que l'on trouve dans l'œil. Au-delà de cela, ça va dans le cerveau plus complexe et où, en fait, ce qu'on appelle la rétinotopie, cette coordination entre les projections de l'œil, de la lamina à la médulla, cette rétinotopie se dégrade un petit peu et, en fait, les informations visuelles vont être séparées entre vision des couleurs, vision des formes, vision du mouvement, vision de la lumière polarisée, etc., qui va être traitée au niveau de ce complexe lobulaire dont je dirai un petit peu quelques mots peut-être aujourd'hui. Donc, quelle complexité on trouve ? Au niveau de l'œil, vous avez à peu près 20 types cellulaires. Okay. Vous avez 5 types cellulaires au niveau de la lamina. La lamina, c'est en fait la structure qui permet de faire la première étape dans la détermination du mouvement, la détection du mouvement. Donc, très simple, et vous allez, vous le verrez un petit peu en fait mardi, comment en fait cela peut se faire. Donc, 5 types cellulaires, et ça devient beaucoup plus compliqué au niveau de la médulla, puisque l'on a de l'ordre de 100 types cellulaires, très compliqué. Et ce qui veut dire en fait que chacune de ces colonnes ici est entourée par 100 types cellulaires. Donc chaque colonne est entourée de 100 types cellulaires. Et donc en fait, on a 800 colonnes qui sont toutes exactement les mêmes, qui sont toutes innervées par 100 types cellulaires qui vont traiter l'information de différents types. D'accord ? Ensuite, les choses deviennent un peu plus simples au niveau de la lobula, qu'on connaît un petit peu moins bien. Donc on connaît en fait très bien la médulla, et en fait, il y a énormément de travail qui a été fait. En particulier, l'institution de Howard Hughes Medical Institute aux États-Unis, et en particulier la Janelia Farm, qui est près de Washington, a fait énormément de travail là-dessus. Et en particulier, ils ont une reconstruction par microscope électronique de cette structure. Donc, en fait, ils ont réussi à reconstruire. En fait, ce n'est pas la peine de reconstruire toute la structure, puisqu'en fait, il suffit qu'on reconstruise une seule des structures, une seule des unités, on va arriver à comprendre exactement tout ce qui se passe. Donc, en fait, ils ont réussi à reconstruire 9 cartouches, ici, que vous avez au niveau de ces colonnes de l'œil, et ont permis de voir tout le connectome complet de cette structure-là. Donc, c'est une structure qui est quand même assez facile à utiliser, dans la mesure où, en fait, tout est complètement hiérarchisé, et en plus, de façon de 800 modules qui vont être fonctionner en parallèle les unes par rapport aux autres. Donc, 800 modules, si on arrive à en comprendre un, on arrivera à comprendre pratiquement tout ce qui se passe là-dedans. Bien sûr, cela représente l'axe antéro-postérieur et l'axe dorso-ventral. Ceci dit, on peut considérer que l'œil de drosophile est pratiquement homogène, et en fait, on peut considérer que la plupart de ces parties de l'œil fonctionnent à peu près de la même manière. Ce n'est pas tout à fait vrai, et j'en parlerai un petit peu plus tard, mais en gros, on peut considérer que c'est un petit peu le cas. Okay. Donc, si on concentre notre attention sur cette partie, la médulla, la partie la plus compliquée, en fait, il y a une séparation très nette entre les corps cellulaires qui sont ici, il y a à peu près 40 000 cellules là-dedans, et ce qu'on appelle le neuropile, qui est en fait les axones et les dendrites qui vont se connecter, et envers ce que vous avez, les photorécepteurs qui viennent de l'œil jusque-là. En fait, ce sont uniquement les photorécepteurs qui sont impliqués dans la vision des couleurs. Ceux qui s'intéressent à la vision du mouvement vont être en fait s'arrêter au niveau de la lamina, et j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, en fait, ce que vous avez, c'est que 800 cartouches, 40 000 neurones, si on fait un petit peu de maths, 40 000 divisé par 800, ça fait que, en fait, chaque colonne va être entourée en fait, de l'ordre de 100 types de neurones. Donc, en fait, chacune de ces colonnes va être entourée de 100 types de neurones. Et ce qu'il faudrait arriver, c'est comprendre quels sont ces types de neurones et comment ils se développent. Et donc, ça va être la première partie de ce séminaire aujourd'hui, de comprendre comment, en fait, ces choses se développent. Okay. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en fait utiliser les techniques très puissantes de génétique moléculaire de la drosophile et, par exemple, s'arranger à marquer un de ces neurones ici et de voir un petit peu ce qu'il fait. Et ce qu'on pourrait faire, c'est d'arriver à faire ça pour les 40 000 neurones que vous avez dans cette structure. Donc, si on marque un seul de ces neurones avec la GFP et on voit ce qui se passe, on voit que le neurone a son corps cellulaire ici, il va se brancher à ces deux types de photorécepteurs R8 et R7, OK. R8 qui se termine ici, R7 qui se termine ici. Donc, vous allez avoir un neurone qui va projeter ici, ici, et qui va ensuite aller dans les parties plus profondes de cette médulla, et ensuite, elle va continuer plus loin dans la partie de la lobula et la plaque lobulaire. Okay. Donc, en fait, vous avez un de ces neurones. Les neurones neutrophiles sont un petit peu particuliers dans la mesure où ils sont monopolaires. Ça veut dire qu'en fait, il y a une seule projection qui sort de l'axone, du corps cellulaire, et le corps cellulaire, en fait, n'est pas très impliqué dans tout ce qui est activité électrique. On peut le mesurer en y mettant une électrode dedans, mais ce n'est pas là que l'activité se définit. Donc, en fait, vous avez une seule projection, qui est en fait un axone, et là, vous avez ici des branchements, qui sont des branchements dendritiques, qui vont donc capturer l'information qui vient des photorécepteurs ici, et donc traiter l'information ici, et l'envoyer dans les parties plus profondes du cerveau. Donc en fait, si vous voyez la forme de ce neurone, on s'aperçoit qu'il y en a un par colonne. Donc en fait, tu peux imaginer que si en fait il y a un seul par colonne, on va avoir une organisation de ce type, où en fait chaque colonne va être occupée par un de ces neurones, donc on s'attend à ça, ce qui est à peu près 800 neurones dans le cerveau de ce type-là. D'accord ? Donc c'est un neurone parmi les 100 qui existent, il y aura donc 800 de ces neurones. Donc, again, à nouveau, une facilité de travailler dans la mesure où en fait chaque neurone est représenté de très nombreuses fois, 800 fois dans ce circuit. Maintenant, vous avez aussi des neurones qui sont beaucoup plus larges, qui peuvent contacter de plusieurs colonnes. Par exemple, celui-là contacte à peu près 10 colonnes, ce qui veut dire que si on arrive à ce que ces neurones ne se touchent pas, on va avoir à peu près de l'ordre de 75 neurones, parce qu'une stoichiométrie qui va de l'ordre de l'autre 1 à 10, de 1 à 11, et donc pour avoir un nombre de neurones qui sera beaucoup moins important. Donc, le travail qu'il faut comprendre, c'est de comment arriver à faire 100 neurones. Certains auront une stoichiométrie de 1 à 1 par rapport au photorécepteur, donc 800 colonnes, et l'autre auront une stoichiométrie qui sera beaucoup plus basse. Donc, comment arriver à générer toute cette diversité neuronale et d'abord, peut-être la première chose à faire, c'est de comprendre comment cette diversité neuronale, quelle est cette diversité neuronale, comment elle existe, d'accord ? Vous avez d'autres neurones qui ne parlent même pas aux photorécepteurs qui sont en rouge ici. Ils sont simplement des neurones qui sont des neurones qui vont traiter l'information. Et je n'essaie pas de rentrer en détail de ce que traiter l'information voudrait vous dire. Donc on peut s'imaginer aussi que ces neurones seraient aussi moins abondants et ont une stoichiométrie de l'ordre de 1 à 10. Okay ? Donc, si on peut mettre tout ça, tout ce qu'on connaît depuis ce qui est fait depuis Karal, ce qui a été fait dans les techniques plus modernes dans la HFP, on peut considérer qu'il y a plusieurs types de neurones. D'abord, il y a les neurones qui sont des neurones de projection, c'est-à-dire qu'ils vont capturer l'information de la médulla et vont l'envoyer vers des couches plus profondes du cerveau. D'accord ? Et il peut y avoir aussi des neurones locaux qui ne vont pas aller ailleurs, qui vont uniquement traiter l'information localement. Donc, chacune des colonnes va pouvoir traiter l'information localement. Mais plus important pour ce dont on veut discuter aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, il y aura des neurones qui vont être un par colonne, d'accord ? Donc, il y aura donc 800 de chacun de ces types cellulaires. Et on considère qu'il y a à peu près 25 types de cellulaires de ce type. Donc, il y a 25 neurones qui sont représentés 800 fois dans le cerveau. Et les autres types de neurones sont des neurones qui sont multicolumnaires. Ça veut dire qu'il y en aura beaucoup moins, leur stoichiométrie sera beaucoup plus importante. Mais par contre, leur nombre de types cellulaires est plus important d'ordre de 70. Donc la question qu'on veut se poser, c'est comment arriver à générer toute cette diversité cellulaire avec ces types de stoichiométrie qui varient d'un neurone à l'autre. Donc en fait, d'après notre travail, on a réussi donc à se dire qu'il faut essayer de comprendre cette diversité neuronale, et comme on est des généticiens moléculaires, ce qu'on essaie de voir, c'est comment arriver à comprendre comment ces neurones acquièrent leur spécificité. Comment est-ce qu'ils vont devenir des neurones qui sont de projection, leur stoichiométrie, quel va être le type de neurotransmetteur qu'ils vont exprimer, quel va être le type de récepteur neurotransmetteur qu'ils vont avoir, quel type de canaux à ions vont avoir, à quel niveau du cerveau vont-ils projeter, etc. Donc, c'est des choses qu'on voudrait comprendre au niveau moléculaire. Quels sont les réseaux génétiques qui permettent de comprendre cela ? Donc, on a commencé il y a quelques années à se dire, bon, on va bénéficier de la puissance génétique de la drosophile en essayant d'avoir des marqueurs pour chacun des types cellulaires. Donc, en fait, grâce au travail de pas mal de gens dans le domaine, y compris du nôtre, on a réussi à avoir des marqueurs qui permettent d'exprimer la GFP uniquement dans un type cellulaire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est exprimer la GFP uniquement dans un type cellulaire dans une mouche, faire pas mal de mouches, extraire les cerveaux de ces mouches, les dissocier et purifier uniquement les cellules qui expriment la GFP et de faire un profiling d'ARN messager pour essayer de comprendre quel est leur contenu génétique, quel est leur contenu d'ARN messager là-dedans. On a réussi à faire ça pour une vingtaine de types cellulaires. Et en fait, vous allez voir que c'est un travail énorme qui nous a pris beaucoup de temps. Depuis, Janelia, donc de Harvard Medical Institute, a continué ce travail qui n'est pas encore publié. Ils ont en fait utilisé une technique un peu similaire pour obtenir de l'ordre de 50 types neuronaux. Et donc, on est à ce point, on arrive déjà à définir le transcriptome de 50 types neuronaux. Ceci dit, je vous ai dit que dans le cerveau, dans le lobe optique, il y avait au moins 200 types cellulaires, donc on est un petit peu loin du compte, et on voudrait avoir une vision beaucoup plus globale de ce qui se passe. Et c'est là qu'après deux ou trois ans, une nouvelle technologie apparaît sur le marché, qui est la technique qui permet de séquencer chacune des cellules de façon individuelle, donc d'obtenir le transcriptome de chacune des cellules individuelles. Donc en fait, la technique est relativement simple, c'est un petit peu incroyable que ça fonctionne si bien, mais ça fonctionne extrêmement bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on dissocie le cerveau, et chacune des cellules va être en fait mise par un système de microfluidics qui va être mise dans une bulle, dans une goutte de lipides. Et en même temps que c'est dans la même goutte, il va y avoir en fait une bille qui contient des primers. Des amorces, ok. Des amorces spécifiques pour le séquençage. Et chaque bille va contenir une amorce qui va avoir une séquence différente, qui va en fait être individualisée. Donc chaque bille va être associée avec une seule cellule et aura un marqueur, une amorce qui va être très spécifique. D'accord ? Donc on peut faire ça. Ces amorces vont s'hybrider avec l'ARN messager qui est dans cette cellule et va donc permettre de marquer cet ARN messager spécifiquement avec cette amorce spécifique. On peut faire ça pour 10, 20, 100, 1000, 10 000, 100 000 cellules. Et on arrive à avoir donc le transcriptome de 100 000 cellules individuellement. Au début, c'était un petit peu difficile, à la mesure où on arrive à avoir une représentation très superficielle du transcriptome de ces cellules. Maintenant, avec le texting moderne, on arrive à avoir une représentation qui est beaucoup plus profonde. Et donc, on arrive à avoir une transcription très précise de chacune des cellules, autant de cellules qu'on veut faire, c'est une question de prix uniquement, qui contient le cerveau. Donc, on a ensuite, bien sûr, il y a un traitement d'information qui est assez gigantesque, puisqu'en fait, on peut avoir le transcriptome de 100 000 cellules, ce qui est quand même assez énorme au point de vue logistique, informatique. Et donc, on arrive à aller faire des clusters qui vont représenter chacune des cellules. En fait, toutes les cellules qui ont le même transcriptome vont pouvoir être groupées ensemble. D'accord ? Et donc, on arrive à ce qu'on appelle ce TISNI, qui est en fait cette représentation assez étonnante, qui nous permet de représenter sur une seule image quels sont les types cellulaires qu'on peut trouver dans chaque drosophile. Donc, ça représente à peu près. Chaque point ici est une cellule et chaque point représente le transcriptome complet d'une cellule. D'accord ? Donc, ce que vous avez, c'est que vous avez donc à peu près de l'ordre de 200. Donc, il y a 110 000 cellules là-dedans. Donc, 110 000 cellules. Chaque point ici représente une seule cellule. Donc, là, il devait y avoir peut-être 500 ou 600 cellules. D'accord ? Donc, vous avez 110 000 cellules qui représentent 193 clusters. Et parmi ceux-là, il y a 169 neurones. Donc, on arrive à une représentation beaucoup plus en détail de ce qui se passe. On pense qu'on a pratiquement toute la diversité neuronale qu'il y a dans ce lobe optique. Il nous manque peut-être quelques cellules qui sont représentées de façon très, très, très peu abondante. Mais en fait, on pense qu'il ne nous en manque pas beaucoup. Et on trouve aussi quelques glies. Et bien sûr, d'après ce que je vous avais décrit avant, on avait déjà une information assez spécifique pour certains de ces neurones qui avaient été extraits du cerveau en fonction de la GFP, par fax, et avaient été séquencés individuellement. Donc, on arrive à mettre des noms sur certains de ces clusters dedans, et on arrive donc à voir quelque chose comme ça. Maintenant, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'en fait, il y a deux types de neurones. Il y a les neurones qui sont unicolumnaires, qui sont en fait un par une stoichiométrie de 1 à 1, donc qui devrait être abondante, on va en avoir 800 par cerveau, et d'autres qui vont avoir une stoichiométrie qui est beaucoup moins importante, on en aura peut-être 10 fois moins. Et en fait, on peut s'apercevoir que les gros clusters qu'on vous trouve ici, ces gros clusters sont en fait, correspondent à ces neurones qui sont en fait présents à un exemplaire par colonne. Et tous les autres, les petits clusters, sont ceux qui sont représentés à 1 pour 10 colonnes, parce qu'ils ont fait des arborisations qui sont beaucoup plus importantes. Donc tout ça colle vraiment bien. Et en fait, on arrive à tous les neurones qui ont été identifiés marchent vraiment bien. On arrive à comprendre exactement comment tous ces neurones sont faits. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, si vous arrivez à réaliser la puissance de ce genre d'approche. Dans la mesure où ce qu'on a maintenant, on va avoir de l'ordre de 200 neurones et on aura le transcriptome de chacun de ces 200 neurones, ce qui fait qu'on peut faire maintenant des statistiques, on peut faire des corrélations entre le réseau génétique, tous les facteurs de transcription, par exemple, qui sont exprimés dans ce neurone, dans ce neurone, dans ce neurone, et on connaît toutes les caractéristiques de ce neurone, y compris son transcriptome. Donc, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de corréler en fait le réseau génétique avec les propriétés de ce neurone. Maintenant, si vous regardez un petit peu ça en détail, vous apercevez qu'il y a un petit peu une sorte de problème ici, puisqu'en fait, on a un énorme cluster au milieu, et je vous dis qu'en fait, ce cluster correspond en fait à 8 types cellulaires qu'on n'arrive pas à distinguer chez l'adulte. C'est qu'en fait, vous avez 8 types cellulaires, et on sait que ces 8 types cellulaires sont vraiment 8 types de cellulaires qui sont tout à fait différents. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que ces 8 types cellulaires sont, et ensuite, on essaiera de comprendre pourquoi on ne les voit pas à ce moment-là. D'accord ? Donc, avant de passer là-dedans, je voulais savoir qu'en fait, il y a beaucoup en fait, de clusters pour lesquels on n'a pas réussi à trouver de nom, puisqu'en fait, ils n'avaient pas été identifiés au préalable. Mais ceci dit, c'est que si on a tous ces 200 ou 189 clusters, on peut s'apercevoir que en fait, vous pouvez organiser ces clusters en fonction des types de facteurs de transcription qu'ils expriment ou des facteurs de gènes qu'ils expriment. Donc, en fait, pour chacun des clusters, on peut toujours trouver un gène qui est pratiquement uniquement exprimé dans ce cluster ou dans deux ou trois clusters. Et donc, ce qui nous permet en fait d'aller chercher dans nos bases de données, savoir si on peut trouver une cellule qui exprime uniquement une cellule déjà identifiée, qui exprime uniquement ce gène. Donc, en fait, on peut bénéficier à nouveau de la, de la, de la puissance génétique de la drosophile, où en fait, grâce aux efforts de quelqu'un à Baylor College qui s'appelle Hugo Bellen, il a réussi en fait à insérer de la GFP dans chacun des gènes de la drosophile. Ce qui fait qu'en fait, si on a un gène qui est ici, qu'on pense exprimer uniquement un type cellulaire, on lui demande de nous envoyer des mouches qui expriment la GFP uniquement en fonction de ce gène, et on peut savoir dans quelle mesure cette GFP s'exprime dans un neurone particulier qui nous permet d'identifier ce neurone. Donc, on est en train de faire ça en ce moment, et donc de continuer l'identification et de mettre un nom à tous ces clusters qu'on connaît, que l'on ne connaît pas encore. Et donc, on espère que d'ici 6 mois ou 1 an, on pourra avoir le nom en fait, de ces 189 neurones, de comprendre exactement comment ces neurones en fait, sont, quelle est leur identité, quelles sont leurs propriétés, puisqu'on a leur morphologie, quelquefois leur fonction aussi, et bien sûr, on a leur transcriptome, et de savoir de reconstruire complètement les lois qui gouvernent la spécification de ces neurones. Donc, par exemple, ici, vous avez deux exemples. Si ce gène ici, qui est un MCFO, est dans un cluster qui exprime uniquement ce gène, et on s'aperçoit qu'en fait, si on obtient une mouche qui exprime ce gène uniquement, qui a la GFP dans ce gène, on s'aperçoit qu'elle marque un neurone spécifique qu'on appelle TMY14, okay, sur un autre qui est un TMY88. Donc, on arrive à mettre un nom sur des clusters, donc de dire qu'en fait, ces deux clusters correspondent à ce neurone ou à ce neurone, et on peut continuer à travailler comme ça là-dessus. C'est la même représentation. En fait, si on se concentre uniquement sur les facteurs de transcription, ces facteurs de transcription appartiennent à deux catégories. Ça, c'est ceux qui sont panneuronaux, ça veut dire qu'on les trouve dans tous les neurones. Okay. On a ceux qui sont uniquement exprimés dans la glie, d'accord, qui sont différents de ceux qui sont exprimés dans les neurones. Et on s'aperçoit en fait que chacun des neurones en fait, a une combinaison de facteurs de transcription qui, très certainement, est en train de diriger la spécification de ces neurones au cours du développement, ou en tout cas chez l'adulte. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est que quel type de règle peut-on en définir? Et peut-être la première règle qu'on pourrait essayer de définir, c'est quels sont les types de neurotransmetteurs qui sont en fait présents et quelles sont les règles qui permettent à un neurone d'exprimer un neurotransmetteur. Donc, ici, ce que vous avez, c'est l'arbre ici qui n'est pas un arbre de linéaire. C'est un arbre uniquement de proximité génétique, d'accord? De proximité génétique, et on peut s'apercevoir qu'on peut grouper quels sont les neurones qui expriment une enzyme qui permet de définir que ce sont en fait des neurones qui sont cholinergiques, qui sont GABAergiques, qui sont glutamatergiques, etc., etc. Et c'est pour ça quelque chose d'un petit peu surprenant, c'est que bon, la plupart des neurones de drosophile sont en fait cholinergiques, mais si on a ceux qui sont GABAergiques ou glutamatergiques, on s'aperçoit qu'en fait ces neurones n'ont pas l'air de se ressembler énormément. En dehors du fait qu'ils expriment le même neurotransmetteur, ils semblent être répartis dans l'arbre de proximité que l'on peut construire. Donc en fait, il semble que d'être un neurone cholinergique, ce n'est pas forcément quelque chose qui provient de la proximité génétique. Donc en fait, on peut acquérir la notion, l'expression d'un neurotransmetteur au dernier moment, indépendamment du reste des propriétés biologiques de ce neurone. Peut-être un bel exemple que je peux vous donner, c'est le suivant. Comme vous le savez, en tant qu'humain, nous avons des motoneurones. La drosophile a des motoneurones. Cyligante a des motoneurones. Et bien sûr, tout le monde sait que les motoneurones sont cholinergiques. En fait, ce n'est pas vrai, parce que la drosophile, les motoneurones sont en fait glutamatergiques. D'accord ? Donc, en fait, il semble que même si les motoneurones de drosophile sont vraiment similaires aux motoneurones de Cyligante ou humain, ils ont, pour une raison qui reste à définir, acquis un neurotransmetteur qui est complètement différent, qui explique au fait ce qu'on appelle convergence phénotypique. En fait, on peut arriver à la même convergence, au même neurotransmetteur, par des routes tout à fait différentes, puisque ces neurones sont vraiment très différents les uns des autres. Donc, en fait, on peut, par corrélation, essayer de comprendre quels sont les facteurs de transcription qui peuvent être corrélés avec chacun des neurotransmetteurs. Et en fait, on peut s'apercevoir que pour, par exemple, un neurone cholinergique, il n'y a pas un, mais 3 ou 4 facteurs de transcription qui peuvent être en corrélation avec l'expression de ce neurotransmetteur. Ce qui correspond en fait à ce que je vous dis, c'est qu'en fait, il y a plusieurs manières d'avoir un neurone qui devient cholinergique, soit en exprimant Apterus, ou MF2, ou GIM, ou SIM. D'accord ? Et en fait, on peut démontrer cela. Si on a un neurone, ça c'est tous les neurones qui expriment le marqueur pour les neurones cholinergiques. Si on fait une mutation pour ce gène Apterus, on s'aperçoit qu'on perd beaucoup de neurones qui perdent leur tri, mais pas tous les neurones. Donc en fait, Apterus contrôle la présence d'un neurotransmetteur cholinergique dans une partie des neurones, mais pas tous les neurones, et d'autres neurones vont sûrement dépendre de cela. Okay. Donc, je veux revenir en fait à ce problème de ce cluster ici, qui en fait est un énorme cluster qui contient, vous nous le savons, 8 types cellulaires qui, malgré tout, n'en arrivent pas à définir de façon spécifique, dans la mesure où ils sont tous groupés dans un seul cluster. Ces neurones, en fait, on les connaît très bien, parce qu'en fait, c'est les neurones que je considère les plus importants dans le cerveau de la drosophile, puisque ce sont les neurones qui sont les premiers neurones qui sont sensibles à la détection du mouvement. D'accord ? Donc, en fait, vous avez deux types de neurones. Vous avez les neurones T4 et les neurones T5. Et ces neurones, en fait, sont T4 ou T5, parce que les neurones T4, ils vont détecter un mouvement d'une barre brillante sur un fond noir. Par rapport aux cellules T5 qui font le contraire, qui détectent en fait une barre noire sur un fond brillant. D'accord ? En fait, c'est quelque chose qui est universel. Nous faisons la même chose chez l'homme dans le cerveau humain. On est aussi à détecter ce qu'on appelle le on pathway ou le off pathway. On arrive à détecter soit ce genre de mouvement ou ce genre de mouvement. Donc T4 et T5 détectent soit l'un, soit le on pathway ou le off pathway. Donc ça en fait deux, mais je vous dis qu'il y en avait 8. En fait, ce qui se passe, c'est que les autres vont détecter le mouvement dans les 4 directions cardinales qui existent dans l'univers. C'est qu'en fait, vous avez des neurones qui s'appellent T4A qui vont projeter dans cette partie de la plaque lobulaire. Et ces neurones vont uniquement répondre à des signaux front to back, donc de devant à derrière. Donc en fait, quand on marche dans l'univers, dans un espace, on a donc un mouvement constant de front to back qui va être donc le mouvement qui permet de savoir donc ce que l'on fait. En fait, c'est un mouvement global. On s'en fiche d'avoir s'il y a une mouche ou un autre insecte ou un oiseau qui se passe par là. Ce qui compte, c'est le mouvement global front to back. Et ça, ces deux neurones, soit qui détectent le front to back d'un mouvement d'un objet brillant sur un fond noir ou d'un objet noir sur un fond brillant, vont projeter sur cette première couche de la plaque optique. Maintenant, on peut aussi voir des mouvements de back to front, okay, et en fait, ceux-là vont se projeter sur le deuxième layer, et en fait, une troisième couche qui va être en fait de voir le mouvement de haut en bas ou de bas en haut. Donc en fait, les 4 directions cardinales de l'univers sont en fait représentées dans ces 4 couches de la plaque optique et en fait sont représentées soit par un système on ou un système off. Donc on sait qu'il y a 4 cellules et en fait, c'est 8 cellules, pardon, et ces 8 cellules sont très différentes parce que les neurones T4 feront projeter ici dans la partie basse de la médulla, alors que les neurones T5 vont projeter dans la partie haute de la lobula et en fait, chacune des 4 directions vont projeter de 4 directions. Donc comment se fait-il que 8 neurones qui sont vraiment si différents, qui projettent à des régions tout à fait différentes, arrivent malgré tout à ne pas être distincts, on ne peut pas les distinguer au niveau de leur information génétique, au niveau de l'adulte. En fait, en y réfléchissant, on s'est aperçu que c'est peut-être quelque chose qui se passe, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'au niveau de leur fonctionnement, ces neurones détectent le mouvement. Mouvement d'une partie brillante, d'une partie noire, dans une direction, mais ils font tous la même chose. La seule chose qui compte, c'est que où est-ce qu'ils ont projeté, mais leur projection se fait beaucoup plus tôt au cours du développement. Donc on peut essayer de comprendre comment ces neurones ont été fabriqués au départ. Okay. En fait, ces neurones proviennent de deux progéniteurs, un qui va définir le système horizontal. Vous voyez très bien ici les deux couches supérieures, A et B. Okay. Donc c'est ceux qui vont poser soit front to back, soit back to front. Et un autre progéniteur va définir les deux autres couches, up-down et down-up. Okay. On peut les marquer par deux marqueurs génétiques, DBP, qui est un BMP homologue, d'accord, ou Brinker, qui est une cible de BMP. Donc, on a deux progéniteurs différents qui vont avoir des linéages qui vont projeter soit les neurones AB, soit les neurones CD. Et ensuite, il va y avoir une division asymétrique de ces progéniteurs qui va soit donner le notch on ou notch off, c'est une division asymétrique qui dépend de notch, qui va soit donner pour la partie horizontale, soit donc cette division-là, soit dans une direction front to back ou back to front, ou up ou down, okay, et ensuite une deuxième division asymétrique qui va dire vous êtes T4 ou T5, T4 ou T5. D'accord ? Donc deux divisions successives asymétriques qui dépendent toutes les deux de notch, qui vont permettre de définir ces 8 types cellulaires à partir de 2 progéniteurs. Donc, on s'est dit, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est que ces divisions vont les amener à avoir des propriétés différentes qui vont leur permettre de se projeter à des régions différentes du cerveau, soit la partie basse de la médulla ou la partie haute de la lobula, et à ces 4 couches différentes dans la plaque optique. Donc, on s'est dit, peut-être que s'il y aura des plus tôt au cours du développement, on va arriver à avoir des définitions différentes de ça. Donc, ce qu'on a, c'est que je vous ai donné donc ces clusters que je vous ai donnés. Ils étaient tous au niveau de l'adulte. Mais si on a des plus tôt au cours du développement, on pourrait peut-être comprendre un petit peu comment ces neurones ont été fabriqués. Le seul problème, c'est qu'au moment, si on regarde au cours du développement, les neurones n'ont pas encore acquis leur fonction définitive et leur forme définitive, ce qui fait que c'est pratiquement impossible de les identifier basés sur leur morphologie. Mais par contre, dans la mesure où on le fait de façon assez... Si on arrive à séquencer le transcriptome de ces différents neurones chez l'adulte, de plus en plus tôt, on va pouvoir arriver à récapituler leur transcriptome, identifier le neurone, basé simplement à leur ressemblance à ce qui se passe chez l'adulte. Et donc, on pourra avoir seulement ce qui va se passer au niveau de la cinématogénèse, au niveau de la formation des couches, ou trouver leurs couches, au niveau de comment les axons vont arriver à se diriger dans le cerveau optique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reséquencer tout le cerveau au cours de développement, soit chez l'adulte, soit à différents stades de développement. Et on arrive à avoir, donc, on va faire ça. Et donc, en fait, ce qu'on va avoir, c'est de voir si on peut arriver à faire correspondre les clusters au cours du développement à ceux qu'on a identifiés chez l'adulte. Donc, on va faire quelque chose comme ça. Donc, en fait, il y a des techniques de bioinformatique qui sont assez lourdes aussi, très compliquées, mais on arrive à faire ça. Et en fait, on peut voir, c'est que, par exemple, quand on fait chez l'adulte, on peut arriver à facilement identifier les mêmes clusters ou les clusters qui sont aux mêmes neurones au cours du développement, à 70% de développement ou à 50% de développement ou à 40% de développement ou à 30% ou à 15% de développement. D'accord ? Donc, on arrive à reconstruire tout l'arbre de transcription depuis le début du développement jusqu'à la partie adulte. Et bien sûr, ce transcriptome n'est pas le même dans la mesure où les neurones ont des fonctions, ont des actions différentes. De nouveau, ils forment des synapses, ils projettent leurs différentes régions, etc. Donc, on peut revenir à ce moment-là, ce qui se passe avec les 8 neurones dont je vous parlais, qui, au niveau de l'adulte, formaient un gros cluster. En fait, si vous voyez ce qui se passe à la moitié du développement, en fait, on a 8 très beaux clusters bien distincts qui correspondent très facilement à ces 8 neurones qu'on arrive à distinguer de façon très précise. Donc, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au moment où les neurones deviennent différents, puisqu'en fait, ils vont trouver des couches différentes, ils vont acquérir des fonctions différentes, ils sont très facilement distingués, on peut les distinguer très facilement, mais au cours chez l'adulte, c'est trop tard, ils ont tous acquis leur forme. Maintenant, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils fonctionnent de la même manière, ils ont les mêmes neurotransmetteurs, les mêmes canaux, etc. En fait, si on regarde entre les deux, à 50% de développement ou à 70% de développement, déjà, quand on est un petit peu plus tard, on voit que les neurones commencent à perdre leur spécificité et qu'on arrive simplement à distinguer les AB entre CD, mais par contre, on n'arrive pas à distinguer les T4 des T5. Okay ? Donc, on peut reconstruire vraiment la trajectoire génétique qui permet à ces neurones de se distinguer. Okay. Et donc, on peut arriver à comprendre comment ces neurones se développent. Donc, ce que vous avez, c'est le transcriptome de ces différents neurones, soit ceux qui proviennent du progéniteur horizontal ou du progéniteur vertical. On voit qu'ils sont très, très différents. Ensuite, on peut distinguer ceux qui sont d'une direction par rapport à l'autre direction. Et à la fin, on peut distinguer ceux qui sont on ou off. Donc, en fait, ça reproduit très précisément le cheminement développemental. Et on peut arriver à savoir quels sont les gènes ici qui sont différents entre, par exemple, les T4 ou T5, ou entre ceux qui projettent de façon horizontale front to back ou back to front, up and down, etc., etc. Et donc, on arrive vraiment à reconstruire tout le pathway. Et parmi ces gènes que l'on peut trouver, on s'aperçoit qu'il y a énormément de molécules qui sont des molécules d'adhésion, qui sont en fait des molécules de guidance, qui nous permettent donc de trouver, qui vont permettre à ces neurones de trouver où projeter dans l'axe. Un autre exemple, en fait, donc on a 2 ou 3 exemples en fait, des clusters qu'on n'arrivait pas à distinguer chez l'adulte, se distinguent pendant le développement. Par exemple, celui-là, c'est un très beau cluster qui ne forme qu'un seul cluster chez l'adulte. Et on ne pensait pas en fait, que c'était 2 types de cellulaires différents, on pensait que c'était un seul cellulaire différent. Mais en regardant de précis, on s'aperçoit qu'en fait, il y a 2 types cellulaires, un qui projette dans cette direction, qui sont aussi impliqués dans la détection du mouvement, et l'autre qui projette dans l'autre direction. Et si on regarde ce qui distingue ces 2 clusters, en fait, des molécules qui s'appellent BIT, c'est en fait, ce sont des molécules d'adhésion qui sont en fait des molécules qui se lient à des récepteurs qui sont des sides. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a des bits différents, des sides différents des 2 côtés qui permettent seulement à ces types de neurones de trouver leur cible au cours du développement. Mais plus tard, au niveau de l'adulte, ces neurones ne peuvent plus être distingués. Donc, ce que je vais vous dire ici, c'est comment en fait on arrive à reconstruire le transcriptome précis de tous ces neurones, des 180 neurones, et maintenant on a en main la possibilité de comprendre comment ces neurones, chez l'adulte et au cours du développement, vont acquérir toutes leurs fonctions spécifiques. Et en particulier, un grand mystère qui reste parmi nous, c'est qu'en fait, on ne comprend pas comment des molécules d'adhésion arrivent à trouver, permettre aux neurones de se trouver l'un à l'autre. Il y a ce fameux modèle de la clé de la cellule, de la serrure, où en fait une molécule d'adhésion va se lier à une autre cellule d'adhésion et pour permettre à ces deux neurones de se trouver. Mais en fait, il n'y a personne qui a réussi à trouver la règle comme quoi il y aurait une molécule qui se permettrait de se lier à une autre molécule. Et en fait, c'est un petit peu difficile de comprendre comment ça fonctionnerait, dans la mesure où on a des milliers de types cellulaires et on n'a pas assez de gènes pour faire ça. Donc il y aura des combinatoires et personne n'a réussi à comprendre la combinatoire de cette molécule d'adhésion qui permet à ces molécules de se trouver l'une à l'autre. Donc, ce que je vous ai dit, c'est comment on peut arriver à comprendre comment, chez l'adulte et au cours du développement, on peut essayer d'établir la corrélation entre les réseaux de transcription et les propriétés de ces neurones, propriétés morphologiques, fonctionnelles, etc. D'accord ? Et ça, c'est sur quoi on travaille. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est comment ces neurones, qui ont cette diversité, ont été générés au départ. Donc, comment, d'où est-ce qu'ils viennent, comment on arrive à créer cette diversité neuronale. En particulier, je vais concentrer mon attention sur la médulla, où c'est 100 types cellulaires, de comprendre comment ces 100 types cellulaires sont nés. D'accord ? Donc, on se concentrer sur là-dessus, et comme je vous l'ai dit, ces neurones, ces 40 000 neurones, vont être occupés, vont être reproduits 800 fois au cours du développement, chacune des colonnes qu'on a ici. D'accord ? Donc, un facteur dont il faut que je vous parle, c'est le facteur temps. Donc, ça, c'est en fait l'œil. L'œil est ici, d'accord ? Et l'œil se développe chez la drosophile, un peu comme chez les vertébrés, avec un gradient temporel où, en fait, il ne se développe pas tout d'un coup, il se développe lorsqu'une vague de détermination traverse un épithélium. Donc ça, vous avez l'œil, le neuroépithélium de l'œil, qui est naïf, il n'y a rien du tout, single couche, c'est une simple couche, et vous allez avoir une vague de différenciation qui va aller de la partie postérieure vers la partie antérieure, au cours d'une période de 3 ou 4 jours. D'accord ? Donc vous avez les photorécepteurs qui apparaissent en vert ici, et vous voyez qu'ici se développe, la vague bouge de gauche à droite, de droite à gauche, donc de postérieur à antérieur, et au bout de donc demain et après-demain, la vague aura traversé complètement l'œil, et tout le neuroépithélium va être transformé en ces 800 facettes qui composent l'œil adulte de la drosophile. Donc vous avez un facteur temporel où en fait tous les photorécepteurs ne sont pas nés en même temps. La même chose se passe en fait pour le développement de cette partie du cerveau dont je vous parlais, la médulla, où en fait, là aussi, vous avez aussi un neuroépithélium, qui est en fait cette partie, cette forme qui est de croissant, cette partie pourpre ici, qui est la forme d'un croissant, qu'on appelle le OPC, d'accord ? Et ce croissant est fait de neuroépithélium, c'est une simple couche, d'accord ? Et va en fait devenir des neurones progéniteurs, des progéniteurs neuraux, qui vont en fait devenir ces neurones dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Comment ça se passe ? En fait, ce neuroépithélium, un peu comme ici, va se transformer en progéniteur, okay, à la partie extrême de ce croissant ici. D'accord ? Vous avez la picture ici. Donc, vous avez ici, à la partie extrême, le neuroépithélium va se transformer en neuroblast, qui est en fait le nom de l'azophile pour les stem cells, les cellules souches de nerveuses. Okay ? Donc, vous allez avoir ces neuroblastes sont formés ici, et ensuite tout le neuroépithélium va se transformer au cours du temps, à peu près en parallèle avec ce qui se passe dans l'œil, en neuroblastes. D'accord ? Donc, vous avez ici en schématique, vous avez donc le neuroépithélium, vous avez le neuroblaste qui se forme ici, et au cours du temps, au cours de 2-3 jours, vous allez avoir la transformation complète de le neuroépithélium en des neuroblastes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près de l'ordre de 800 neuroblastes. Et bien sûr, ce nombre doit vous faire réagir, puisqu'en fait, 800 neuroblastes, c'est le nombre d'homatidies, le nombre de colonnes, le nombre de cartouches que vous avez dans le cerveau. Donc, l'idée immédiate serait de dire qu'en fait, chaque neuroblast va produire tous les neurones qui entourent une seule des cartouches. Vous avez 800 neuroblastes, vous avez donc 800 cartouches, et vous allez pouvoir mettre tous ces neurones. C'est un petit peu vrai, c'est à peu près vrai. Mais bien sûr, il y a des problèmes, puisqu'en fait, il y a des neurones qui sont produits avec des stoichiométries différentes. Donc, il n'est pas possible d'imaginer qu'un neuroblast produise tous les neurones, ou bien alors on aurait une mort cellulaire qui serait gigantesque. D'autre part, de produire 100 neurones différents à partir d'un simple neuroblast, ça paraît un petit peu difficile à imaginer, encore que ce n'est pas tout à fait impossible. Et en fait, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait faux. Okay ? Donc, l'idée serait, c'est qu'en fait, chaque colonne est produite par un de ces 800 neuroblastes. Et comment est-ce que cela se produit ? D'accord ? Donc, si on fait une section en travers comme ça, et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, c'est le neuroépithélium. Et comme je vous le disais, cette cellule-ci, au bout du neuroépithélium, va se transformer en neuroblast. Et neuroblast, c'est une cellule souche. Elle va se diviser, elle va produire un intermédiaire cellulaire qui va se diviser une seule fois pour donner deux neurones. D'accord ? Donc, deux neurones qui ont été produits, et ensuite, un peu plus tard, au cours du temps, le prochain cellule épithéliale va se transformer en neuroblaste, qui va se diviser de nouveau, il va produire deux neurones, et comme ça, elle va se produire comme ça. Okay ? Donc, ces neurones, ici, vont être produites, commencer tôt, ceux-là vont commencer juste maintenant. Donc, aussi, ce que vous avez des neuroblastes qui sont jeunes, qui viennent juste de se transformer, des neuroblastes qui sont vieux. Ici, vous avez des vieux neurones et aussi des jeunes neurones. Donc, vous avez deux facteurs temporels ici qui sont impliqués, qui permettent de voir comment, en fait, on peut arriver à comprendre comment, en fait, on peut arriver à avoir cette diversité neuronale. En fait, pour illustrer ça, on peut voir ce qui se passe. Si on marque un seul neuroblaste, on peut s'apercevoir, en fait, que ce neuroblaste donne une colonne de deux neurones, okay, très précisément, qui est marquée par GFP. Et tout est tellement bien compact qu'en fait, tout reste en place. Les choses ne bougent pas. Les choses sont vraiment les uns en dessous des autres. Okay. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, cette colonne ici va donner lieu à tous les neurones qui entourent une colonne. Et il y aura donc ces 800 neuroblastes qui proviennent de ces 800 cellules neuroépithéliales qui sont transformées en neuroblastes. Okay. Maintenant, comment est-ce qu'un neurone pourrait produire ces 100 types cellulaires qui entourent chacune des cartouches? En fait, Chris Doe, de l'Université de l'Oregon, a proposé un modèle il y a une vingtaine d'années qui permet d'expliquer au moins conceptuellement comment ça c'est possible. Ce que Chris Doe a vu, c'est en fait dans les neuroblastes de la corde ventrale des insectes, donc en fait ce qui permet de voir la larve de bouger, c'est parce qu'il y avait des neuroblastes qui exprimaient un facteur de transcription qu'on appelle hunchback. Donc, ce neuroblaste va se diviser, il va produire un neurone qui va se rappeler qu'il provient d'un neuroblaste qui exprime un hunchback, qui va donc exprimer un hunchback. Mais ensuite, ce neuroblaste va être fatigué d'exprimer un hunchback, il va se dire, j'ai changé hunchback, exprime maintenant un autre gène, Crouper. Okay. La prochaine fois qu'il va se diviser, il va produire un neurone qui va s'exprimer Crouper. Ensuite, il va éteindre Crouper et activer PDM, et produire un neurone qui exprime PDM, et ensuite, il va activer Castor et produire un neurone qui exprime Castor. Donc, conceptuellement, ça explique comment un neuroblaste peut produire 4 neurones différents, d'accord, qui est bien loin des 100 qu'on veut produire. Et ceci dit que, conceptuellement, le programme semble marcher bien et qu'on arrive à avoir un peu étendre cette activité temporelle autant qu'on veut, et arriver donc à produire une grande série de neurones. Quand ce système est sorti sur le marché il y a une vingtaine d'années, les gens se sont dit, voilà, c'est la clé du développement neuronal, puisqu'on sait qu'en fait, de nombreuses structures chez les vertébrés se développent aussi de façon temporelle. Par exemple, la rétine de souris ou la rétine humaine se développe de façon temporelle. On crée d'abord des cellules rétinales ganglionnaires. Et ensuite, à la fin, on produit des bâtonnets. Et entre les deux, les 7 petits cellulaires sont produits de façon linéaire. De la même manière, dans le cerveau humain ou le cerveau de drosophile, on sait que les 6 couches du cerveau sont faites de façon inside out, c'est-à-dire qu'en fait on produit d'abord la couche 6, la couche 5, la couche 4, la couche 3, la couche 2, et ça c'est fait de façon temporelle. Donc ceci permettrait d'expliquer comment, dans ces cas vertébrés, ce système de facteurs de transcription temporels pourrait arriver à contrôler la production de différents types neuronaux. Ceci dit, ça a été un petit peu décevant, puisqu'en fait personne n'a réussi à trouver ce type de facteurs de transcription chez la rétine de souris ou dans le cortex humain. Et en fait, personne n'a réussi à le trouver chez la drosophile non plus. Et on s'est dit, on va regarder dans notre système, et notre système, ce serait génial, parce qu'en fait, dans notre système, ce qu'on a fait, c'est que à chaque moment de développement, on a des neurones qui sont jeunes, plus vieux, plus vieux, plus vieux. Donc si c'était vrai, en fait, on aurait un neurone qui exprime hunchback, Crouper, PDM, Castor, et donc ce serait parfait, on arriverait à le voir. Malgré tout, on a réussi à. Aucun de ces gènes n'était exprimé là, donc on est un petit peu déçus. Mais en fait, ce qu'on a réussi à trouver un petit peu par hasard, c'est qu'en fait, la même chose existe, sauf que les noms des gènes diffèrent. Et qu'en fait, le nombre de gènes est plus important. Donc en fait, on a ici 7 gènes, et vous en donner d'autres un peu plus tard, et qu'en fait, qui sont exprimés de façon temporelle, avec les neuroblastes les plus jeunes exprimés Homo thorax, Klumpfuss, Homo brain, ILS, Sauvipère, Dakitales, et dès qu'en fait, chaque neuroblast va donc passer par une série temporelle. Ceux-là qui expriment maintenant Thales, quand ils étaient jeunes, ils exprimaient Homo thorax, ensuite ils exprimaient Klumpfuss, Homo brain, ILS, Sauvipère, Dakitales, et vous voyez qu'en fait, tous les neurones qu'ils ont produits correspondent à cette série temporelle qu'ils ont produite. Donc là, ça commence à devenir un petit peu intéressant, puisqu'en fait, là, on arrive à voir qu'on peut produire de l'ordre de 7 types neuronaux à partir d'un simple neuroblaste. Okay, est-ce qu'on peut généraliser ce système pour voir un petit peu comment on arrive à produire tous les 100 types de neuronaux que l'on a trouvés? Okay. Donc en fait, vous avez ici une vue en section. En fait, les neuroblastes précoces expriment homothorax, ensuite ILS, ensuite opiper, ensuite dacite, ensuite TLS. Et peut-être la photo que j'aime le plus, c'est celle-ci, qui est en fait une photo ou une vue d'en haut. Vous avez le neuroépithélium ici, et les jeunes neuroblastes expriment au thorax, ILS, topiper, dacite. Je n'ai pas assez de couleurs sur le confocal pour arriver à vous montrer le dernier. Mais ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ces neurones dacite, quand ils étaient jeunes, exprimaient au thorax, et quand ceux-là vont vieillir, ils vont exprimer dacite. Donc, à la fin du développement, tout le monde sera passé par toute la série temporelle. En fait, comme je vous le disais, c'est exactement ce qui se passe dans le cerveau humain, puisqu'en fait, ici, vous avez, c'est une souris de souris ici, vous avez ici donc les 6 couches du cerveau, du cortex humain, vous avez d'ailleurs 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Et en fait, à la base, vous avez des progéniteurs, et ces progéniteurs, normalement, doivent produire ces 6 couches cellulaires. Et en fait, il y a une grosse controverse, en fait, en disant, certains disent qu'il y a des progéniteurs précoces qui produisent uniquement la couche 6, d'autres qui produisent uniquement la couche 5, 4 ou 3 ou 2, et d'autres gens qui disent, en fait, le même progéniteur produit 6, ensuite 5, 4, 3, 2, etc. Et en fait, cette problème a été résolu récemment par le fait, donc, qu'en fait le progéniteur va en fait, produire d'abord un neurone de la couche 6, ensuite 5, 4, 3, 2, 1. Et peut-être que c'est une image de Simon Hippenmeyer, qui est un clone magnifique qui vient donc, chez la souris. On s'aperçoit que c'est un clone, donc on marque uniquement un progéniteur, le radial glial cell. Et en fait, on s'aperçoit qu'elle produit un neurone R6, 5, 4, 3, 2. Donc en fait, ça prouve en effet que comme dans le système que je vous décris, dans le cortex, dans le développement du cortex humain ou de souris, le même progéniteur qui produit de façon successive les 6 couches du cerveau. Ce n'est pas complètement parfait dans la mesure, en fait, en moyenne, chacun des clones fait 8 cellules au lieu de 5 ou 6, qu'on va vous attendre. En fait, parce qu'il y a en fait simplement des systèmes par exemple, cette couche a deux neurones. Donc, en fait, il y a des systèmes d'amplification qui se font à chaque nessus. Et chez l'humain, ces systèmes d'amplification vont être encore plus abondants. Ceci dit, le concept reste le même, c'est qu'en fait, un progéniteur peut passer par différentes étapes de différenciation en fonction de ces facteurs temporels de transcription qui permettent de changer au cours du temps la spécification des neurones qui sont produits par ces différents neurones. Okay. Donc, en fait, de façon simplistique, ce qu'on a, le neuroblast produit d'abord son exprime homothorax, ALS ou bien dacite TLS. Donc, il y a une sorte d'horloge qui permet à ces neurones de changer de destin. Quelle est cette horloge? On peut essayer de la comprendre, par exemple, en mettant une mutation dans le gène intermédiaire slopiper. Donc, si on fait un mutant slopiper, qu'est-ce qui va se passer au cours pour les neurones qui sont produits avant ou les neurones qui sont produits après? En fait, ce qu'on voit, c'est ça, c'est qu'en fait, une fois que l'on enlève le gène slopiper, le système est coincé à l'étape d'avant, il continue à progresser, mais il progresse toujours en patinant à ALS, 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 ALS. Il continue à se diviser, mais il reste là-dessus. En fait, on a fait ça pour tous les facteurs de transition. Et en fait, la règle qu'on peut en décrire, c'est qu'en fait, le gène X, dans ce cas-là, slopiper 1, va activer le prochain gène, dacite, et va réprimer le précédent. D'accord ? Donc, un système purement transcriptionnel qui est une horloge qui permet d'avancer, qui, bien sûr, doit être synchronisé avec le cycle cellulaire, qu'on comprend encore trop bien, mais qui permet d'expliquer comment on peut arriver à une horloge cellulaire qui permet d'avancer d'un facteur à l'autre et de produire différents types de neurones. L'un des avantages de ce système-là, c'est qu'en fait, quand X va réprimer X-1, ça veut dire que les deux sont exprimés à un moment donné, tous les deux en même temps. Et en fait, ce que je vous ai montré dans la photo d'avant, c'est qu'en fait, vous voyez très bien qu'il y a ILS et homothorax qui étaient co-exprimés, stopiper de ILS. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on a un système comme ça qui est un petit peu plus compliqué. En fait, chaque étape, chaque fenêtre temporelle est en fait non pas marquée par un facteur de transcription, mais on peut avoir deux facteurs de transcription, par exemple homothorax, homothorax plus ALS, ALS, ALS. Ce qui fait qu'on peut en fait définir de façon simplement, uniquement avec ce nombre limité de facteurs de transcription, 12 fenêtres temporelles qui nous permettent donc de définir 12 types cellulaires. Okay, 12, c'est encore un petit peu loin des 100 que je veux définir. Ceci dit, vous vous rappelez peut-être que je vous ai dit qu'il y, en fait, il y avait à peu près 25 types cellulaires qui étaient exprimés avec une stoichiométrie de 1 à 1. Donc ça veut dire qu'au moins, chaque neuroblast, il y a 800 neuroblastes, doit pouvoir produire les 25 neurones, l'un après l'autre, de chaque neuroblast. Okay, on n'a que 12 ici, à peu près. En fait, ce que je vous ai dit, et vous ne vous rappelez peut-être pas, c'est qu'en fait, chaque neuroblast, à chaque fenêtre temporelle, va se diviser pour donner ce progéniteur qui va se diviser une fois de plus, une seule fois de plus. Mais cette division va être asymétrique dans la mesure où l'une des cellules va être notch on, l'autre cellule va être notch off. Donc en fait, ces 12 fenêtres temporelles dont je vous ai parlé tout à l'heure ne produisent pas 12 neurones, ils produisent 24 neurones. 12 sont notch on, 12 sont notch off. Et donc, en fait, vous avez ici les neurones. Vous apercevez qu'en bleu, ce sont les neurones qui sont notch on, en vert, c'est les neurones qui sont notch off. Et en fait, ça permet d'expliquer comment on peut multiplier tout ça par deux. Et donc, chaque fenêtre temporelle produit deux neurones, notch on, notch off, donc 24 identités distinctes qui peuvent être définies par un seul neuroblaste. Okay. Donc, ça, c'est bien, mais la question qui se pose maintenant, c'est les autres. Les 70 autres, 80 autres, qui sont des neurones qui sont exprimés, qui sont présents à une bien plus basse stoichiométrie, de l'ordre de 1 à 10. D'où est-ce qu'ils proviennent? D'où est-ce que les neurones proviennent? Puisqu'ici, je n'explique que ceux qui sont exprimés, qui sont présents, qui sont produits par chacun des neuroblastes, produits par les 800 neuroblastes. Okay, donc, d'où viennent ceux qui sont à une stoichiométrie qui sont plus basse? Donc, l'argument que je vais proposer, c'est qu'en fait, chaque neuroblast, chacun des 800 neuroblastes, va parcourir une série temporelle qui reste à définir complètement, où en fait il va produire des neurones unicolumnaires, ces 25 neurones unicolumnaires, en fonction de ces fenêtres temporelles successives. D'accord. Et en fait, quand un neuroblast est né, il va exprimer homothorax, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va produire un neurone qui est notch on, qui ce neurone-là, qu'un colon connaît très bien, qui s'appelle MI1, qui est marqué par un facteur de transcription qu'on appelle BSH. Okay. OK. Donc ça veut dire que la première chose que chaque neuroblast fait dès qu'il est né, il produit un de ces ces neurones unicolumnaires, donc une stoichiométrie de 1 à 1 avec les photorécepteurs, qui est marquée par BSH. Et ensuite, il va continuer, et produire tous les types de neurones qui vont être requis pour fermer ces différentes colonnes. Ceci dit, si l'argument que je vous ai proposé est vrai, il n'y a aucune raison qu'on puisse voir cette photo qui est ici. Enfin, cette photo, elle représente l'épithélium, le neuroépithélium, le croissant, qui est marqué par trois facteurs de transcription, Rx, Optix et VSX. Je vous ai dit que tous les neurones, tous les neuroblastes allaient faire la même chose, tous produire la même série temporelle, et allaient produire ces 25 types neuronaux. Et maintenant, je vous dis qu'en fait, dans ce croissant, le bout du croissant exprime Rx, le milieu exprime Optix, et le centre exprime VSX. Donc comment se fait-il qu'il soit marqué par des régionalisations très spécifiques, alors qu'en fait, je vous ai dit qu'ils allaient tous aller parcourir le même trajet temporel? En fait, les deux choses sont vraies. En fait, chaque neuroblast qui provient d'une de ces régions va produire différents types de neurones. Il va produire des neurones qui s'en fichent complètement d'où ils viennent. Il va produire des neurones qui vont absolument dépendre de d'où ils viennent. Laissez-moi vous démontrer un exemple. Vous vous rappelez, les premiers neuroblastes qui sont nés expriment homothorax. Et la première chose que les neurones qui expriment homothorax, les 800, vont produire ce neurone MI1, que je vous ai décrit, qui exprimait BSH. D'accord ? Donc, vous voyez en rouge, BSH, le croissant entier, le croissant commence ici, exprime des neurones rouges qui sont à une stoichiométrie de 1 à 1 dans tout le croissant. Par contre, en plus de ça, les neurones du centre ici du VSX, donc ça, c'est les neurones qui ont exprimé MI1, ceux-là vont produire des neurones qui sont uniquement produits dans la partie VSX du neuroépithélium, et vont produire des neurones qui sont beaucoup plus larges, qui ont une stoichiométrie qui sera beaucoup plus importante, beaucoup plus basse. Donc, il va y avoir des produits. Et dans le bout du croissant dorsal, le bout du croissant ventral, vont aussi produire des neurones qui sont des grands neurones là. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'en fait, chaque neuroblast fait deux choses. Il produit d'une part des neurones qui sont communs à tous les neuroblastes. Il va aussi produire des neurones qui sont spécifiques à chaque région qui produit ces neuroblastes. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut compter qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5 types de neurones avec une plus basse stoichiométrie, qui sont produits par des régions beaucoup plus restreintes du neuroépithélium, qui va donner naissance à ces neurones qui ont une stoichiométrie beaucoup plus basse. Ce qui permet logique, puisqu'on a besoin de beaucoup moins de neurones, donc c'est beaucoup plus simple de les faire produire uniquement par une région réduite du neuroépithélium. Bien sûr, Thomas, ça c'est pour toi, ces neurones qui sont nés ici, ils doivent occuper toute la région, tout le champ visuel. Et donc, bien qu'ils soient nés ici, il faut qu'ils occupent tout le champ visuel, et donc ils vont réussir à occuper tout le champ visuel, ils vont envoyer des projections, et on pense qu'en fait, ils vont envoyer des projections où ils vont remplir les trous, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'occuper, et les neurones qui sont déjà occupés ne pourront pas plus être occupés deux fois, donc en fait, ils vont être occupés qu'une seule fois. Donc en fait, ce que je vous ai dit ici, c'est qu'une combinaison entre les facteurs temporels et les facteurs spatiaux permet de générer ces 100 types neuronaux par des lois qui sont tout à fait simples, des lois aussi très rigides, qui semble en fait être respecté et tout à fait déterministe dans la mesure où on ne voit pas de divergence par rapport à ce système dont je vous ai décrit. Donc, pour finir, je voudrais revenir un petit peu à cette étape du développement où en fait, je voudrais essayer de corréler ce que je vous ai dit au début de mon talk et à la fin de mon séminaire. En fait, comment on peut arriver à comprendre le réseau transcriptionnel des neurones au cours de l'adulte ou du cours du développement, et ce qui se passe très tôt lorsque ces neurones sont vraiment spécifiés très tôt au cours du développement à partir de leur neuroblaste, qui est cette étape de développement ici. Donc je dis, pourquoi on n'essaie pas de faire la même chose qu'on a fait au cours du développement, de voir un petit peu très tôt à ce moment-là si on peut trouver comment chacune de ces cellules ici, de ces neuroblastes et des neurones qu'ils produisent, sont spécifiées en faisant toujours cette séquence de transcriptome de chacune des cellules individuelles. Le problème, c'est qu'ici, c'est qu'en fait, vous avez toute une sorte d'étapes, tout est mélangé, parce qu'en fait, vous avez toutes les étapes développementales, vous avez les neuroblastes qui sont très tôt, qui sont plus jeunes, qui sont plus vieux, qui sont plus vieux, qui sont plus vieux, qui produisent des neurones, ça va être un bazar total. Mais on s'est dit, peut-être qu'avec la puissance qu'on arrive à avoir, on peut arriver à définir ça. Donc on a réussi à faire ça, et on a regardé, donc c'est des résultats qui sont très récents, on a donc un transcriptome d'une 30 000 cellules, chacun est une cellule, et donc on voit toutes sortes de choses qui se clusterent en différents neurones. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, c'est d'où viennent ces neurones, est-ce qu'on peut trouver les neuroblastes qui sont produits là. En fait, les neuroblastes sont marqués par un marqueur, DPN, et en fait, donc, ces cellules sont sûrement des neuroblastes. Mais quels sont les neuroblastes qui nous intéressent? En fait, on peut s'apercevoir, par des critères qui sont intéressants à définir, qu'en fait, ça, ce sont les neuroblastes, qui sont les neuroblastes dont je vous ai parlé, qui sont les neuroblastes qui vont produire tous ces neurones de la médulla. Donc, on va se rapprocher de ceux. Et ce qui est intéressant, c'est que si on les organise, on s'aperçoit qu'en fait, on regarde leur transcriptome, et leur transcriptome propose exactement ce qu'on s'attend, c'est qu'en fait, on a ici homothorax, ALS, loupipère d'Achilles, et l'organisation, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de progression géométrique de ces neuroblastes qui correspond exactement à leur organisation temporelle. Donc ça veut dire qu'en fait, on arrive à voir que là, une trajectoire temporelle qu'on peut arriver à définir, et même ce gène Lysolocut, c'est en fait un gène qui marque la transformation du neuroépithélium en neuroblastes, qui est uniquement exprimé dans quelques cellules qui sont juste à la jonction. Donc ça, c'est bien, mais est-ce qu'on peut arriver maintenant à voir ce qui se passe peut-être entre ces différentes étapes transcriptionnelles? Donc on utilise un différent programme qu'on appelle MONOC, qui est en fait un programme qui permet non pas uniquement de grouper par proximité, mais essayer de voir un petit peu comment ces neurones, ou ces neuroblastes, dans ce cas-là, évoluent au cours du temps. Donc même si c'est un certain temps précis, comment le transcriptome change. Et on peut essayer d'organiser ces neurones en fonction de ce qu'on appelle un pseudo-time, qui serait le temps auquel ces neurones ont été capturés. Et si on fait ça, on reproduit exactement homothorax, ALS, loupipère d'Achilles. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est regarder quels sont les gènes qui pourraient être exprimés uniquement à ce pic-là, uniquement à un pic-là, un pic-là. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est la chose suivante. C'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'on produit d'autres gènes, d'autres facteurs de transcription, qui sont exprimés exactement comme ceux qu'on avait identifiés un petit peu au hasard au préalable, qui correspondent en fait à différents types de transcription, qui nous permet d'étendre énormément le nombre de facteurs de transcription temporels qui sont exprimés. Et donc, ce qu'on vient de comprendre maintenant, c'est comment essayer tout cela de s'organiser, et si en fait on peut étendre les nombres de facteurs de fenêtres temporelles qui sont exprimés au cours de ces neuroblastes. Donc, vous voyez un petit peu la puissance de ces techniques de single cell sequencing qui nous permet vraiment d'analyser en détail comment ces choses sont faites. Et en finissant, revenons, si vous voulez, ça, si vous voulez, c'est une photo qui nous permet de voir les différents neurones. Ça, c'était les neurones, vous appelez les MI1 neurones qui sont marqués par BSH. Okay, ils sont produits très tôt au cours du développement, c'est ceux qui sont en bas. Et ce qu'on peut faire, c'est la même chose, ils sont ici. Et on peut les organiser de façon temporelle. Okay, et donc, vous voir un petit peu comment ces neurones, qui sont un type cellulaire, comment ce type cellulaire peut en fait arriver à se développer. Et en fait, on fait de la même manière. Cette monocle, en fait, donc, c'est les neurones plus précoces, les plus jeunes neurones et les vieux neurones. Donc, dans la mesure où on avait une trajectoire temporelle, on peut voir comment les jeunes neurones et les vieux neurones, ça. Et on s'aperçoit que là, d'abord, ceux qui se divisent, donc c'est la dernière division qui est là. Ensuite, pour une raison ou pour une autre, il y a un accroissement de la de traduction. Ils acquièrent le neuronal identité. Ensuite, ils vont exprimer les neurotransmetteurs. On ne comprend pas pourquoi les neurotransmetteurs sont exprimés si tôt au cours du développement. Ça ne s'attendait pas du tout. Ensuite, ils vont avoir des molécules d'adhésion qui permettent de trouver leur cible. Ils vont étendre leurs axones. Ils vont avoir tous les gènes qui sont requis pour l'activité neuronale. Et ensuite, il y aura les gènes qui permettent de faire les synapses. Donc, on arrive à récupérer toute la biologie cellulaire de ces neurones au cours du temps, simplement en prenant une image fixe de ce qui se passe au niveau de ce neuroépithélium qui est en train de développer. Donc il y a une quantité d'informations gigantesques. Ça, c'est pour un neurone. On peut retrouver la même chose pour tous les neurones, les 200 neurones qui existent là, de refaire la même chose et de comprendre un peu comment c'est un type de neurotransmetteur, ce type de cellule d'adhésion, ce type d'action d'extension peut arriver à mettre que ces neurones arrivent à trouver leurs fonctions telles qu'ils sont à ce moment-là. Donc je termine ici. Donc ça, c'est une partie du travail, une grande partie a été faite par Nikos, qui est en fait un postdoc qui a accepté un poste à l'Institut Jacques Monod à Paris, et donc qui a été le pionnier de toutes ces techniques de single cell sequencing. Et donc, plus récemment, il a été joint par ces scientifiques, des étudiants et des postdocs qui sont impliqués là-dedans. Et ça, c'est le reste des gens qui travaillent dans le laboratoire, et donc dont je vous parlerai dans les semaines qui viennent. Merci.